Comme chaque dernier mardi du mois, l'association Braise Europe Finistère nous décortique l'Union européenne avec ses propres experts finistériens ou parfois des invités. Aujourd'hui, c'est Maël Cordeau, le président de l'association, qui revient à son tour sur un événement qui a sans doute déjà bien transformé l'Union européenne et même sans doute plus que ce qu'on imagine. Maël, le 24 février dernier, c'était la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Aujourd'hui, on va donc revenir sur cette année de conflit, notamment à travers la dimension européenne. Et on va d'abord retracer la chronologie des événements de cette guerre.
Tout à fait. Même si le conflit avait commencé avant le 24 février 2022, c'est à cette date que Vladimir Poutine annonce une opération militaire éclair qui vise à défendre les minorités russophones du Donbass et surtout, je le cite, dénazifier l'Ukraine. Il est important de le rappeler, cela relève du fantasme et ses propos sont l'apogée d'années de propagande du gouvernement russe. Il nous faudrait beaucoup de temps pour revenir sur cette année complète. Alors il ne sera que question d'étapes qui ont changé le conflit, ainsi que les rapports de force de notre continent. Tout d'abord, la nuit du 23 au 24 février, des missiles frappent plusieurs villes ukrainiennes, notamment Kiev, la capitale. L'Union européenne, qui était déjà sur le qui-vive, notamment avec de précédentes sanctions, réagit avec de nouvelles sanctions encore plus lourdes, donc des sanctions financières et économiques. Le 27 février, la tension monte d'un cran supplémentaire, 3 jours après le début de l'invasion et surtout le jour de la supposée fin de l'opération éclair, l'Ukraine résiste toujours, l'Ukraine tient bon, et dès lors la Russie brandit la menace nucléaire. Cette annonce entraîne l'UE et le monde dans un processus inédit. Les sanctions économiques qui étaient déjà historiques sont revues à la hausse et pour la première fois de son histoire, l'Union européenne signe l'envoi d'armes. Le jour suivant, donc le 28 février 2022, l'Ukraine fait sa demande d'adhésion à l'UE, qui est d'ailleurs un objectif inscrit dans la constitution de l'Ukraine depuis 2019, au même titre que l'adhésion à l'OTAN. Le 2 mars, c'est cette fois l'ONU qui exige le retrait des forces russes du territoire souverain de l'Ukraine, mais le 4 mars, la Russie accentue sa politique de terreur et essaye notamment de s'emparer de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. À ce stade, le bilan humain est déjà beaucoup trop lourd, il y a plus de 300 civils tués à cause des frappes aériennes, il y a plus d'1 300 000 personnes qui ont fui l'Ukraine. Ensuite, le 11 mars, le Conseil européen, donc les 27 États membres, se prononce en faveur d'un rapprochement de l'UE et de l'Ukraine, mais contre une intégration rapide de l'Ukraine à l'UE. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Au même moment, l'ONU revoit le nombre de réfugiés à la hausse. Cette fois-ci, on passe à 2 500 000 personnes, principalement exilés en Pologne. À la mi-mars, la Russie est exclue du Conseil de l'Europe, notamment pour crimes de guerre. De plus, la part de la communauté internationale qui soutient l'Ukraine emploie aussi ces termes afin de qualifier les nouvelles attaques sur des infrastructures civiles. À l'approche du premier mois du conflit, la Russie n'avance plus. Elle semble figée et son plan semble aussi désorganisé. Quant à elle, l'armée ukrainienne tient largement face à ce que l'on décrivait comme étant la plus grande armée du monde. Le bilan humain s'alourdit encore et encore. Près de 10 millions de personnes ont quitté leur foyer. À la mi-avril, on est du côté des pays scandinaves. Sanna Marin, première ministre de la Finlande, et Magdalena Andersson, la première ministre suédoise d'alors, se rencontrent et évoquent la possibilité d'une adhésion des deux États scandinaves, historiquement neutres, à l'OTAN. Les premières ministres expliquent que ces menaces russes ont de facto fait changer les avis sur cette question majeure. Jusqu'au mois de juin, la Russie intensifie les combats et l'Union européenne renforce ses sanctions dans ce sens. Le 23 juin marque un nouveau tournant puisque les 27 États membres de l'Union européenne votent à l'unanimité pour délivrer le statut de candidat officiel à l'Ukraine. Ainsi, dans les premiers mois du conflit, l'Union européenne assume pleinement son soutien à l'Ukraine en prenant des mesures fortes. Et à partir de l'été, on constate que le conflit s'enlise, il devient long, la Russie ne baisse pas la garde, elle semble tout de même en difficulté puisque le gouvernement annonce la conscription des civils et la possibilité aussi pour la milice Wagner de recruter des mercenaires dans les prisons. Au début de l'année 2023, une nouvelle question fait débat. C'est celle d'un nouveau type de soutien militaire, à savoir l'envoi de chars. Cette décision inédite, notamment pour l'Allemagne, a été validée et beaucoup d'États soutiens de l'Ukraine se sont engagés pour en livrer au plus vite. Aujourd'hui, une centaine de chars devraient être livrés. Au cours de cette première année de conflit, il y a eu d'autres événements géopolitiques majeurs, notamment l'explosion du pont de Crimée, qui a été extrêmement humiliante pour la Russie, puisqu'elle a eu lieu dans l'un des endroits les plus surveillés des territoires annexés, précédemment annexés. Il y a eu le missile tombé en Pologne, qui a failli embraser le monde, ou encore le chantage à la faim fait par la Russie avec le blocage de l'exportation du blé depuis les ports ukrainiens. Dès lors, le conflit s'enracine et sa fin semble de plus en plus difficile à percevoir.
Maëlle, depuis 2014, la Russie a été soumise à des sanctions, entre autres économiques, de la part de l'Union européenne. Alors, quelles ont été les nouvelles sanctions de 2022 et 2023?
Aujourd'hui, l'Union européenne en est à son 10e train de sanctions. Depuis le début du conflit, la Commission européenne ajuste ses sanctions à l'encontre de la Russie. Toutes ces sanctions sont validées par les 27 États membres de l'UE. L'idée n'est pas de détailler l'ensemble des 10 trains de sanctions, mais plutôt de revenir sur les domaines d'impact. Au départ, il y a eu la fermeture de l'espace aérien, des ports et des routes de l'UE au transport russe. Ensuite, il y a très vite eu l'interdiction de médias nationaux russes, tels que Russia Today, donc aussi RT et Sputnik, pour limiter les effets de la propagande russe sur le continent européen. Par ailleurs, il y a une liste d'oligarques proches et proches du Kremlin qui a été établie. Ces personnes sont interdites de séjour et leurs avoirs ont aussi été gelés. C'est également le cas pour Vladimir Poutine. Depuis le 10e train de sanctions qui a été voté le week-end dernier, on sait qu'il va y avoir une liste de personnes qui va être rétablie et ces personnes participent à la propagande russe, notamment sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la finance, plusieurs banques russes ont été exclues du système bancaire SWIFT. Pour rappel, cela permet d'émettre des ordres de paiement, de vente ou encore de transfert de fonds. Donc c'est une mesure importante. Et à côté de ça, les avoirs étrangers de la Banque centrale russe ont aussi été gelés. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus se fournir en avion. Enfin, du côté européen, importer des produits sidérurgiques ou des moteurs de drones, par exemple. De nombreux autres produits qui permettent de mener la guerre ont aussi été interdits à la vente pour la Russie. On peut aussi ajouter que beaucoup en fait, d'armements russes ont besoin de pièces très spécifiques issues des pays européens, et donc de nouvelles sanctions ont été prises dans ce sens pour limiter les achats russes. Par ailleurs, le soft power russe, notamment relatif au sport, est lui aussi clairement menacé du fait de l'interdiction de la Russie dans de grandes compétitions. Il y a notamment des discussions qui sont en cours pour les JO de Paris en 2024. Il y a aussi l'interdiction de la participation de la Russie au concours de l'Eurovision, dans lequel la Russie s'investissait beaucoup. Et enfin, l'UE s'est récemment engagée sur un embargo donc vis-à-vis du charbon, de l'or et du pétrole, qui lui est plafonné d'ailleurs.
Pourquoi est-ce que l'effet de ces sanctions semble limité par rapport à ce que prévoyait l'Union européenne?
Le but de ces sanctions est de cibler les domaines dans lesquels la Russie concentre l'essentiel de son économie afin de l'empêcher de financer son armée. Il est vrai que la récession russe est bien en deçà de ce qui était prévu. D'ailleurs, Vladimir Poutine s'en est félicité, voire amusé lors de son adresse à la nation la semaine passée. Si on avait projeté effectivement une chute de 20%, en réalité, elle n'est que de 2%. Et il y a plusieurs explications à cela. Il faut d'abord bien insister sur le fait que les sanctions européennes sont extrêmement dures pour la Russie, notamment parce que l'Union européenne s'approvisionnait largement en pétrole et gaz russe et que ces importations représentaient les principales exportations pour la nation russe. Aujourd'hui, la Russie est obligée de piocher dans son fonds souverain. Donc le fonds souverain, c'est un moyen pour les États de tirer des profits en fonction de placements financiers. Donc le fonds souverain, lui, russe, lui, repose sur la vente de son gaz. Et pour le moment, son économie tient grâce aux excédents précédemment faits dans le cadre de ses exportations. Par ailleurs, l'explosion du prix du gaz des hydrocarbures permet aussi à la Russie de maintenir ses recettes, même si les pays européens se retirent, eux, petit à petit, des achats. Ajoutons aussi que l'UE a pris du temps avant de s'engager sur la question du pétrole et du gaz russe. Enfin, rappelons que la Russie est un régime autoritaire qui repose sur le contrôle de l'information. Et d'ailleurs, depuis le début du conflit, diverses données statistiques relatives à l'économie ne sont plus fournies par la Russie. Dès lors, la Russie semble tenir, mais ce n'est que provisoire, puisqu'elle utilise toutes ses ressources et que les sanctions sur les hydrocarbures vont mettre, certes, du temps à produire leurs effets, mais vont avoir des effets réellement importants.
On l'a dit, aujourd'hui, le 28 février, c'est la date à laquelle l'Ukraine a officiellement demandé à l'Union européenne de devenir adhérente. Où est-ce qu'on en est depuis un an, Maëlle?
C'est une question très importante et il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un pays souverain et que si l'Ukraine décide d'adhérer à l'Union européenne, alors on ne peut pas l'en empêcher sous prétexte que cela va énerver la Russie. La géopolitique, ce n'est ni de l'apaisement ni de la confrontation, c'est agir selon ses intérêts nationaux ou régionaux et par conséquent pas ceux d'un autocrate. Et donc, dans les faits, pour adhérer à l'Union européenne, les États doivent suivre un processus très long. Les États membres se sont d'ailleurs prononcés contre une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, on l'a dit précédemment. Notamment parce que déjà, en matière de standards sociaux et économiques, l'Ukraine n'est pas prête. Le risque serait d'avoir une nouvelle intégration difficile, comme l'a été celle de la Bulgarie et de la Roumanie. Bien que l'Ukraine soit aujourd'hui dans une dynamique politique uniforme par rapport à d'autres moments de son histoire, de nombreuses réformes sont encore à prévoir. On peut notamment parler du sujet de la corruption, qui reste une problématique de premier plan et qui est aussi une problématique de premier plan au sein de l'UE. On peut parler du détournement de fonds européens, la corruption de parlementaires ou les ingérences étrangères qu'on a pu voir récemment. Et donc, ce doit être un sujet pour les États membres et aussi les pays candidats à l'Union européenne. Aussi, il y a un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est celui des autres États candidats, et notamment les États des Balkans occidentaux, qui, eux, sont officiellement candidats depuis plusieurs années, et donc doivent mener et mènent des réformes, et ils doivent aussi fournir des résultats de réussite à la Commission européenne. Et donc, comment ces États qui, eux, ont pour le moment fait plusieurs années d'efforts, comment est-ce qu'ils réagiraient si un autre État atteignait cet objectif ultime d'adhésion sans même avoir débuté ce long travail? D'autant plus que certains des États des Balkans sont en plein tâtonnement entre des investissements chinois, d'anciennes relations avec la Russie ou encore cette volonté de se rapprocher de l'UE. Les Balkans sont encore aujourd'hui, il faut le dire, en particulier du fait de la Serbie, une poudrière, et il ne faudrait pas la faire s'embraser aujourd'hui en plein conflit. Alors si l'Ukraine ne peut pas adhérer demain, elle le sera certainement un jour, mais il s'agit d'un processus qui est très long, qui s'étale sur plusieurs années, et l'UE met d'ailleurs maintenant un point d'honneur au rapprochement des discussions diplomatiques, au travers de discussions diplomatiques notamment, avec les nations candidates, grâce à la nouvelle communauté politique européenne.
Les dernières infos montrent que le soutien militaire va être renforcé par les États membres et il est notamment question de l'envoi d'armements plus lourds. Mais qu'est-ce qu'il en est du bilan humain depuis un an de guerre?
En ce qui concerne les personnes exilées, elles sont recensées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, on dénombre 4,6 millions de personnes qui bénéficient de la protection temporaire, ce qui permet de vivre dans les États membres. et de travailler aussi. Des personnes exilées sont déjà retournées en Ukraine, d'autres font des allers-retours réguliers pour aider leur famille, aller sur le front ou encore travailler. Précisons-le, les Ukrainiens disposent de titres de séjour temporaires et la grande majorité d'entre eux expriment déjà leur envie de repartir vivre en Ukraine. Et c'est notamment le cas des enfants qui souhaitent étudier pour revenir avec de nouvelles compétences pour leur pays. Ainsi, ce sont la Pologne et l'Allemagne, et aussi la République tchèque, qui sont les États qui ont le plus accueilli. En ce qui concerne la Pologne, cela peut entre autres s'expliquer par l'histoire passée du pays. En effet, l'URSS avait envahi la Pologne en 1939, et donc en s'engageant aussi fermement pour l'accueil des Ukrainiens, la Pologne en fait reconnaît en quelque sorte sa fraternité avec un autre peuple victime d'une nation qui viole les frontières et asservit la population. Évidemment, il y a aussi des critères géopolitiques et surtout là, géographiques. Au sujet des soldats morts et blessés au combat, les chiffres sont accablants. Pour autant, on ne peut que se reposer sur de grandes tendances. D'ailleurs, ces chiffres sont pour les deux camps des arguments stratégiques et de communication. Donc d'un côté, selon la Russie, il y aurait 6 000 soldats russes qui auraient perdu la vie. Et de l'autre côté, l'Ukraine, il y aurait 13 000 soldats ukrainiens qui auraient perdu la vie. D'un autre côté, les services de renseignement occidentaux, eux, annoncent respectivement 200 000 et 100 000 morts. Certaines données ne sont d'ailleurs pas encore traitées et d'autres pas encore récoltées. Il y a aussi le bilan des civils qui est à faire et qui est très difficile à établir. Par exemple, à Mariupol, l'une des villes martyres, parce que détruite à 90% par la Russie, et d'ailleurs contrôlée en ce moment, cette ville compterait au moins 75 000 victimes. Ce sont des chiffres qui sont consternants s'ils s'avéraient confirmés. Depuis le mois d'avril 2022, l'armée russe attaque de nombreuses infrastructures civiles. Il s'agit donc d'une stratégie de terreur. Et dans l'est de l'Ukraine, d'autres villes comme Mariupol sont complètement détruites et les civils se retrouvent au cœur du conflit, alors que Vladimir Poutine avait annoncé une stratégie de paralysation des infrastructures militaires de l'Ukraine. Et donc si on peut se permettre de s'avancer autant sur les intentions de la Russie d'asservir le peuple ukrainien, c'est parce que depuis la découverte du crime de Boutcha, donc en avril, où des centaines de civils ont été retrouvés torturés, violés, mutilés et laissés à l'abandon, les États occidentaux comme la France ont envoyé des équipes spécialisées afin de mener des enquêtes pour envisager des jugements pour crimes de guerre. Depuis cette découverte macabre, il y a eu de nombreux autres témoignages qui accusent les soldats russes de se comporter comme des bouchers. Ces témoignages relatent des faits accablants que l'on n'avait pas vus depuis près de 20 ans sur notre continent. Au début du conflit, il avait aussi été question d'éventuelles déportations d'enfants ukrainiens afin de les intégrer à la société russe. Longtemps, cette hypothèse est restée en suspens, et à présent, la Russie assume parfaitement l'adoption des enfants ukrainiens pour les russifier, conformément à son souhait d'effacer un peu plus l'existence de l'Ukraine. Il y a d'ailleurs des reportages qui ont mis en lumière cette traque des enfants dans les centres d'adoption et foyers pour enfants, une traque qui est faite par les soldats russes. Avec tous ces éléments, il devient difficile de nier la volonté de Vladimir Poutine d'humilier et faire disparaître une population, et ce n'est que lors d'un jugement devant une cour pénale internationale que cette question pourra être tranchée.
Et oui, on verra bien. Maëlle Corrado, merci. Rendez-vous avec Braise Europe Finistère le 28 mars pour la prochaine chronique européenne de l'association.